Chapitre 3. Le ciel avait prodigué à Glaucus tous ses biens, un seul excepté. Il lui avait donné la beauté, la santé, la richesse, le talent, une illustre origine, un cœur de feu, une âme poétique, mais il lui avait refusé l'héritage de la liberté. Il était né à Athènes, sujet de Rome. De bonne heure, maître d'une fortune considérable, Glaucus avait cédé au goût de voyage si naturel à la jeunesse et s'était enivré à la coupe des plaisirs, au milieu du luxe et des pompes de la cour impériale. C'était un Alcibiade sans ambition. Il était devenu ce que devient aisément un homme doué d'imagination, ayant de la fortune et des talents, lorsqu'il est privé de l'inspiration de la gloire. Sa maison était à Rome, le rendez-vous des voluptueux, mais aussi de tous les amis des arts. Et les sculpteurs de la Grèce prenaient plaisir à montrer leur science en décorant les portiques et l'exédra d'un Athénien. Sa demeure à Pompéi, hélas, les couleurs en sont fanées, maintenant les murailles ont perdu leur peinture. Sa beauté, la grâce et le fini de ses ornements, tout cela n'est plus. Cependant, lorsqu'elle reparut au jour, quels éloges et quelle admiration excitèrent ces décorations délicates et brillantes, ces tableaux, ces mosaïques. Passionné par la poésie et pour le drame, qui rappelait à Glaucus le génie et l'héroïsme de sa race, il avait fait orner sa maison des principales scènes d'Eschyle et d'Homère. Et les antiquaires qui transforment le goût en métier ont fait un auteur du mécène. Et quoique leur erreur ait été reconnue depuis, leur langage a continué de donner, comme on l'a fait tout d'abord à la maison exhumée de l'Athénien Glaucus, le nom de la maison du poète tragique. Avant de la décrire, il convient de donner au lecteur une idée générale des maisons de Pompéi, qu'il trouvera très ressemblantes en général au plan de Vitruve, mais avec ses différences de caprice et de goût dans le détail, qui, bien que naturelles à l'homme, ont de tout temps embarrassé les antiquaires. Nous tâcherons de faire cette description aussi clairement que possible et sans pédanterie. Vous entrez habituellement par un petit passage appelé vestibulum dans une salle ornée ou non de colonnes, la plupart du temps n'en ayant pas. Aux trois côtés de cette salle se trouvent des portes communiquant avec plusieurs chambres à coucher et parmi ces chambres, celle du portier. Les meilleures sont ordinairement destinées aux hôtes. À l'extrémité de la salle et des deux côtés à droite et à gauche, si la maison est vaste, on voit deux petites retraites, plutôt que des chambres, consacrées aux dames de la maison. Et au milieu du pavé, marqueté de la salle, il y a invariablement, pour recevoir l'eau de la pluie, un petit réservoir à quatre angles, classiquement appelé un pluvium. La pluie tombait par une ouverture pratiquée dans le toit. Un auvent ferme cette ouverture à volonté. Près de l'impluvium, qui chez les anciens était en quelque sorte chose sacrée, on plaçait d'habitude, mais à Pompéi plus rarement qu'à Rome, les images des dieux protecteurs de la maison. Le foyer hospitalier, si souvent mentionné dans les poètes romains et dédié au lard, se composait presque toujours à Pompéi d'un brasier mobile. Dans quelques coins, celui qui sollicitait le moins d'attention, on déposait un grand coffre de bois, orné ou fortifié par des cercles de bronze ou de fer, et consolidé au moyen de clous, sur un piédestal de pierre avec assez de force pour défier les tentatives qu'aurait pu faire un voleur essayant de le détacher de sa position. On suppose que ce coffre-fort était le coffre-fort du maître de la demeure, celui où il mettait son argent. Cependant, comme on n'a trouvé aucune pièce de monnaie dans les coffres de Pompéi, Il est probable que c'était plutôt un meuble d'ornement que de service. Dans cette salle, ou atrium pour parler classiquement, étaient reçus les clients et les visiteurs du rang inférieur. Les maisons les plus distinguées possédaient tout un atriensis, c'est-à-dire un esclave consacré au service de cette salle, et dont le rang était important et élevé parmi ses camarades. Le réservoir du centre a dû être un ornement dangereux, mais le milieu de la salle ressemblait à la pelouse d'un collège, interdite aux passants qui trouvaient un espace suffisant alentour. Immédiatement, en face de l'entrée à l'autre extrémité de la salle, était situé l'appartement, nommé Tablinum, avec un pavé ordinairement formé de riches mosaïques et dont les murs resplendissaient d'élégantes peintures. Là se conservaient les souvenirs de la famille ou ceux des charges publiques que le possesseur de la maison avait remplies. Sur un des deux côtés de ce salon, si on peut lui donner ce nom, la salle à manger Triclinium. De l'autre côté, parfois, ce que nous appellerons maintenant un cabinet de curiosité, contenant des pierres précieuses et toutes sortes d'objets rares et coûteux, puis toujours un petit corridor pour les esclaves, afin qu'ils puissent se rendre dans toutes les parties de la maison sans passer par les appartements dont nous vous avons fait mention. Ces chambres donnaient toutes sur une colonnade carrée et oblongue, qu'en termes techniques on nommait péristyle. Si la maison était petite, elle avait pour limite cette colonnade, et dans ce cas, le centre, quoique fort resserré, en était disposé ordinairement en jardin et orné de vases de fleurs placés sur des piédestaux. Tandis qu'au-dessous de la colonne, à droite et à gauche, se faisaient remarquer de nouvelles chambres à coucher, un second triclinium ou une nouvelle salle à manger, car les anciens consacraient habituellement deux salles à ces usages, l'une pour l'été et l'autre pour l'hiver, ou peut-être l'une pour les jours ordinaires et l'autre pour les jours solennels. Et si le maître de la maison aimait les lettres, on trouvait ensuite un cabinet gratifié du nom de bibliothèque, une très petite chambre suffisant à contenir le peu de rouleaux de papyrus qu'il considérait comme une collection de nombreux livres. Au bout du péristyle, généralement, la cuisine. Si la maison était faste, elle ne se terminait pas avec le péristyle, et alors le centre n'en était pas un jardin, mais on manquait rarement d'y voir une fontaine, un bassin pour le poisson, et à l'extrémité exactement opposée au tablinum, se trouvait la seconde salle à manger, ou les autres chambres à coucher, et peut-être un salon de peinture, ou une pinacoteca. Ces appartements communiquaient de nouveau avec un espace carré et oblong, orné communément de tous côtés d'une colonnade comme le péristyle, et lui ressemblant à peu près en tout, si ce n'est qu'il était plus large. C'était le véritable viridarium ou jardin, avec une fontaine, des statues et une profusion de fleurs éclatantes. Tout au fond, l'habitation du jardinier et des deux côtés sous la colonnade, d'autres chambres à coucher, si le nombre de la famille exigeait ces appartements additionnels. À Pompéi, le second et le troisième étage n'avaient qu'une médiocre importance. Aussi n'était-il construit qu'au-dessus d'une partie assez restreinte de la maison, et ne contenait-il que des chambres pour les esclaves, différentes sous ce rapport des plus magnifiques édifices de Rome, où l'on établissait fréquemment la principale salle à manger, Caenaculum, au second étage. Les appartements étaient ordinairement de moyenne grandeur, car dans ce délicieux climat, on recevait un grand nombre de visiteurs dans le péristyle ou portique, dans la salle ou dans le jardin. Les salles de banquet elles-mêmes, quoique ornées avec soin et situées avec goût, n'étaient pas très vastes. Les anciens, amoureux de l'esprit et d'une société choisie, haïssaient la foule et donnaient rarement un festin à plus de 9 personnes à la fois, de sorte que de larges salles à manger ne leur étaient pas aussi nécessaires qu'à nous. Mais la suite des pièces que l'on voyait en entrant devait être d'un effet imposant. Vous aperceviez d'un coup d'œil la salle richement pavée et peinte, le tablier noble, le gracieux péristyle, et si la maison s'étendait plus loin, la salle des banquets et le jardin, qui terminaient la perspective par une fontaine jaillissante ou une statue de marbre. Le lecteur pourra maintenant se rendre un compte assez exact des maisons de Pompéi, qui ressemblaient en beaucoup de points à celles des Grecs, en se mélangeant de l'architecture domestique à la mode chez les Romains. Dans chaque maison, il y a bien quelques différences de détails, mais la distribution générale est la même. Dans toutes, vous trouvez les salles, le tablinum, le péristyle, communiquant les uns avec les autres. Dans toutes, des murs avec de splendides peintures. Dans toutes, enfin, l'indice d'un peuple épris des élégances raffinées de la vie. La pureté du goût des Pompéiens dans la décoration peut être contestée. Ils adoraient les couleurs voyantes et les dessins bizarres. Ils peignaient souvent le bas de leurs colonnes d'un rouge vif, sans teindre le reste. Ou quand le jardin était petit, ils cherchaient à l'étendre pour la vue en trompant l'œil par la représentation d'arbres, d'oiseaux, de temples, sur les murs, etc. En perspective, alors grossiers artifices que Pline lui-même adopta et encouragea avec une vanité ingénue. La maison de Glaucus était une des plus petites, mais une des mieux ornées et des plus élégantes parmi les maisons particulières de Pompéi. Ce serait un modèle de nos jours pour la maison d'un célibataire à Mayfair, et l'envie et le désespoir des garçons collectionneurs de vieux meubles et de marqueterie. On y entrait par un long vestibule, dont le pavé en mosaïque porte encore empreinte l'image d'un chien avec cette inscription « Cave canem » ou « Prends garde aux chiens ». De chaque côté, on trouve une chambre de proportions raisonnables, car la partie intérieure de la maison n'étant pas assez large pour contenir les deux grandes divisions des appartements publics et privés, ces deux chambres étaient disposées à part pour la réception des visiteurs, auxquels le rang ou l'intimité ne permettait pas l'entrée des pénétralia de la maison. En avançant un peu dans le vestibule, on rencontre l'atrium, lequel, lors de sa découverte, se montra riche de peintures, qui, sous le rapport de l'expression, n'aurait pas fait déshonneur à Raphaël. Elles sont maintenant au musée napolitain, où elles font l'admiration des connaisseurs. Elles retracent la séparation d'Achille et de Briséis. Qui pourrait s'empêcher de reconnaître la force, la vigueur, la beauté employée dans le dessin des formes et de la figure d'Achille et de son immortel esclave? Sur un des côtés de l'atrium, un petit escalier conduisait aux appartements des esclaves à l'étage supérieur. Il s'y trouvait aussi 2 ou 3 chambres à coucher, dont les murs représentaient l'enlèvement d'Europe, la bataille des Amazones, etc. On rencontrait ensuite le tablinum, au travers duquel, à partir des 2 extrémités, étaient suspendues de riches draperies de pourpre de tir à demi relevées. Les peintures des murs offraient un poète lisant des vers à ses amis, et le pavé renfermait une petite et exquise mosaïque représentant un directeur de théâtre qui donnait des instructions à ses comédiens. Au sortir de ce talon était l'entrée du péristyle, et ici, comme je l'ai dit d'abord en parlant des plus petites maisons de Pompéi, la maison finissait. À chacune des 7 colonnes qui décoraient la cour, s'enlaçaient des festons de guirlandes. Le centre, qui suppléait au jardin, étaient garnis des fleurs les plus rares, placées dans des vases de marbre blanc, supportés par des piédestaux. À gauche de ce simple jardin, s'élevait un tout petit temple, pareil à ces humbles chapelles qu'on rencontre au bord des routes dans les contrées catholiques. Il était dédié au dieu Pénate. Devant ce temple se dressait un trépied de bronze. À gauche de la colonnade, deux petits cubiculats ou chambres à coucher. À droite, le triclinium, où les convives et amis se trouvaient en ce moment rassemblés. Cette chambre est ordinairement appelée par les antiquaires de Naples la chambre de Leda. Et le lecteur trouvera dans le magnifique ovale de Sir William Gell une gravure de la délicate et gracieuse peinture de Leda présentant son nouveau-né à son époux, tableau d'où la chambre a tiré son nom. Ce délicieux appartement donnait sur le jardin embaumé et autour d'une table en bois de citronnier, polie avec soin et artistement décorée d'arabesques d'argent, étaient placés les trois lits, plus communs à Pompéi que le siège demi-circulaire devenu de mode à Rome depuis quelque temps. Sur les lits de bronze incrustés des plus riches métaux, s'étendaient d'épais coussins couverts de broderies d'un grand travail et qui s'élèvent voluptueusement à la pression. « J'avouerai, dit Lady le pensa, que votre maison, quoiqu'elle ne soit pas beaucoup plus large qu'un étui d'agrafe, est un joyau véritable. Que cette séparation d'Achille et de Briseis est admirablement peinte. Quel style! Quelle expression dans les têtes! Quelle... Ah !» Mais l'éloge de Pensa a du prix sur un pareil sujet, dit Clodius gravement. Ces murs aussi sont couverts de peinture et l'on dirait que Zeuxis les a faites de sa main. Vous me flattez, cher Clodius. Oui, oui, vous me flattez, reprit l'édile, dont la maison était connue justement à Pompéi par ses méchantes peintures. Car il était patriote et il n'employait que des Pompéiens. Vous me flattez, mais il y a quelque chose de joli, oui, certes, dans les couleurs, pour ne rien dire du dessin. Et puis la cuisine, mes amis, ah oui, là, tout est invention de ma part. Et quel en est le dessin ? Demanda Glaucus. Je n'ai pas encore vu votre cuisine, quoique j'ai pu apprécier l'excellence de la chair qu'on y prépare. Ah, le dessin, mon cher Athénien, représente un cuisinier, déposant les trophées de son art sur l'autel de Vesta, plus une superbe murène peinte d'après nature qu'on voit cuire dans l'éloignement. Oh, cela témoigne de quelque génie. En cet instant, parurent les esclaves apportant sur un plateau tout ce qui devait servir de préparation au festin. Parmi de délicieuses figues, de fines herbes couvertes de neige, des anchois et des œufs, étaient rangées de petites coupes remplies d'un vin mélangé de miel. À mesure qu'on plaçait ces choses sur la table, de jeunes esclaves présentaient à chacun des cinq convives, car il n'était pas davantage, des bassins d'argent pleins d'une eau parfumée et des serviettes brodées de franges de pourpre. Mais l'édile déployait avec ostentation une serviette qu'il avait apportée de chez lui. Ce n'était pas que le linge en fût plus fin, mais la frange était deux fois plus haute que celle des autres. Il s'essuya les doigts en provoquant l'attention comme un homme qui s'attend à être admiré. « Oh, vous avez là une splendide mappa, » dit Clodius. « D'honneur, la frange en est aussi large qu'une ceinture. »« Oh, une bagatelle, mon cher Clodius, une bagatelle. » On m'a assuré que cette raie est la dernière élégance de Rome. Mais Glaucus s'entend mieux que moi à tout cela. Que Bacchus le soit propice, dit Glaucus, en s'inclinant avec respect devant une magnifique image du dieu placée au centre de la table, au coin de laquelle on avait placé les dieux Lars et les Salières. Les hommes répétèrent la prière. et répandant ensuite du vin sur la table, ils firent les libations accoutumées. Après cela, les convives se penchèrent sur leur lit et le repas commença. Que cette coupe soit la dernière que je porte à mes lèvres, s'écria le jeune Salluste, pendant que la table, débarrassée de ses premiers stimulants, était garnie de mets plus substantiels, et que les esclaves remplissaient jusqu'au bord le siatus qu'ils tenaient à la main. Que cette coupe soit la dernière, si ce n'est pas le meilleur vin que j'ai bu à Pompéi. Qu'on apporte l'amphore, dit Glaucus, et qu'on lise la date et la provenance de ce vin. Un esclave s'empressa d'informer la société que, d'après l'étiquette attachée au bouchon, le vin était originaire de Quillot et qu'il comptait 50 années d'âge. « Comme la neige la rafraîchit délicieusement, » dit Pansa, « il a juste le degré qu'il lui faut. »« Cette neige, » reprit Salluste, « est pour le vin comme pour l'homme l'expérience qui, en modérant la fougue de ses plaisirs, les rend deux fois plus agréables. »« Elle produit l'effet d'un nom dans la bouche d'une femme, » ajouta Glaucus. « Froideur d'un moment, qui ne fait que nous enflammer davantage. »« Mais quand aurons-nous le prochain combat des bêtes féroces ?» demanda Claudius à Pansa. « Vers le 8 des Ides d'août, » répondit Pansa, « le lendemain des fêtes de Vulcain. Nous réservons un jeune lion, charmante bête, pour cette occasion. » « Et qui lui donnera-t-on à dévorer ?» continua Claudius. Hélas, il y a une bien grande dizaine de criminels. Il nous faudra positivement condamner un innocent au lion, mon pauvre Pansa. J'y pense, en effet, depuis quelque temps, répondit sérieusement l'édile. C'est une infâme loi que celle qui nous défend de livrer nos propres esclaves aux bêtes. N'avons-nous pas le droit de faire ce que nous voulons de nos biens? C'est ce que j'appelle une véritable atteinte à la propriété. Il n'en était pas ainsi dans le bon vieux temps de la République, ajouta Salluste en soupirant. Et même cette prétendue générosité envers les esclaves est une privation pour le pauvre peuple, comme il aime avoir une belle rencontre entre un homme et un lion. Cet innocent plaisir, si les dieux ne nous envoient bientôt quelques bons criminels, sera perdu pour le peuple grâce à cette fatale loi. « Quelle mauvaise politique, » dit Claudius d'une façon sentencieuse, « que de contrecarrer les abusements virils du peuple. »« Remercions Jupiter et le destin, » s'écria Salluste, « de ne plus avoir Néron. »« C'était un tyran, en effet. Il a tenu notre théâtre fermé pendant 10 ans. »« Je m'étonne qu'il n'y ait pas eu de révolte, » dit Salluste. « Il s'en est fallu de peu, » répliqua Pansa, la bouche pleine d'un morceau de sanglier. La conversation fut interrompue en ce moment par un concert de flûte, et deux esclaves entrèrent en portant un plat. « Quel mets délicat nous gardez-vous là, mon cher Glaucus ?» s'écria le jeune Salluste avec des yeux de convoitise. Salluste n'avait que 24 ans, et il ne connaissait rien de plus agréable dans sa vie que de manger. Peut-être avait-il déjà épuisé tous les autres plaisirs. Cependant, il avait du talent et un excellent cœur autant que faire se pouvait. « Je reconnais sa figure par Pollux !» s'écria Pansa. « C'est un chevreau ambracien !»« Oh !» ajouta-t-il en faisant claquer ses doigts pour appeler les esclaves. Nous devons une libation au nouveau venu. Je vais espérer, dit Glaucus avec mélancolie, vous offrir des huîtres de Bretagne, mais les vents, qui furent si cruels pour César, n'ont pas permis l'arrivée de mes huîtres. Sont-elles donc si délicieuses? Demanda Lépidus, en relâchant sa tunique, dont la ceinture était déjà dénouée pour se mettre plus à l'aise. Je crois que c'est la distance qui leur donne du prix. Elles n'ont pas le goût exquis des huîtres de Brinde, Mais à Rome, pas de souper complet sans ces huîtres. Ces pauvres Bretons, il y a du bon chez eux, dit Salluste, il y a des huîtres. Il devrait bien produire un gladiateur, dit l'édile, dont l'esprit s'occupait des besoins de son amphithéâtre. Par Pallas, s'écria Glaucus, pendant que son esclave favori posait sur son front une nouvelle couronne de fraîches fleurs. J'aime assez ces spectacles sauvages, lorsque bêtes contre bêtes combattent. Mais quand un homme de chair et d'os comme nous est poussé dans l'arène, pour être en quelque sorte dépecé membre par membre, l'intérêt se change en horreur. Le cœur me manque, je suffoque, j'ai envie de me précipiter à son secours. Oh, les cris de la populace me semblent aussi épouvantables que les voix des furies qui poursuivent Oreste. Je me réjouis à l'idée que nos prochains jeux nous épargneront peut-être ce sanglant spectacle. L'édile haussa les épaules. Le jeune Salluste, connu à Pompéi pour son excellent naturel, tressaillit de surprise. Le gracieux Lepidus, qui parlait rarement de peur de contracter ses traits, s'écria « Par Hercule, le parasite Clodius !» murmura « Par Pollux !» et le sixième convive, qui n'était qu'une ombre de Clodius, et qui se faisait un devoir de répéter les paroles de son ami, qui était plus opulent que lui lorsqu'il ne pouvait pas le louer, véritable parasite du parasite, murmura aussi « Par Pollux !» Vous autres Italiens, vous vous plaisez à ces spectacles. Nous autres Grecs, nous avons plus de compassion. Ombre de Pindare, ah, n'est-ce pas un ravissement que les jeux de la Grèce? L'émulation de l'homme contre l'homme, la lutte généreuse, le triomphe qui ne coûte que des regrets pour le vaincu, l'orgueil de combattre un noble adversaire et de contempler sa défaite. Mais vous ne me comprenez pas. Excellent chevreau, dit Salluste. L'esclave, chargé de découper, s'était occupé de son emploi, qui le rendait tout glorieux, au son de la musique, en marquant la mesure avec son couteau, si bien que l'air, commencé par des notes légères, s'élevant de plus en plus, avait fini dans un magnifique diapason. Votre cuisinier est sans doute de Sicile, dit Pansa. Oui, de Syracuse. Je veux vous le jouer, dit Clodius. Faisons une partie entre les services. Oh, je préférerais certainement ce combat à celui du cirque, dit Glaucus. Mais je ne veux pas me défaire de mon cuisinier. Vous n'avez rien d'aussi précieux à m'offrir en enjeu. Ma Philide, ma belle danseuse. Ah, je n'achète jamais les femmes, dit le grec, en arrangeant sa guirlande avec nonchalance. Les musiciens qui se tenaient en dehors dans le portique avaient commencé leur musique avec l'entrée du chevreau. Leur mélodie devint plus douce et plus gaie, quoique d'un caractère peut-être plus idéal. Ils chantèrent l'ode d'Horace, qui commence par les mots Persicos odi, impossible à traduire, et qu'ils jugeaient parfaitement applicable à une fête que nos mœurs peuvent trouver efféminée, mais qui en réalité était assez simple au milieu du luxe effréné de l'époque. Nous n'avons sous les yeux qu'un festin privé et non un repas royal. Le joyeux souper d'un homme riche, non celui d'un empereur ou d'un sénateur. Ah, bon vieil Horace, dit Salluste d'un ton de compassion, il chantait assez bien les festins des jeunes filles, mais non pas aussi bien que nos poètes modernes. L'immortel Fulvius, par exemple, dit Clodius. Oui, Fulvius, l'immortel, répéta le convive, que nous avons appelé l'ombre de Clodius. Espuranea, et Caius Mutius, qui a écrit trois poèmes épiques dans une année. Horace et Virgile en auraient-ils fait autant? Dit Lépidus. Ces vieux poètes avaient le grand tort de copier la sculpture et non la peinture. Simplicité et repos, c'était là toute leur notion de l'art. Nos modernes ont du feu, de la passion, de l'énergie. Nous ne sommeillons jamais. Nous reproduisons les couleurs de la peinture, sa vie et son mouvement. Oh, immortel Fulvius! À propos, dit Salluste, n'auriez-vous pas eu connaissance de la nouvelle ode de Spuranea en l'honneur de notre Isis égyptienne? C'est magnifique! Quel véritable enthousiasme religieux! Isis me semble une divinité favorite de Pompéi, dit Glaucus. Oui, oui, répondit Pansa, elle est fort en vogue dans ce moment. Sa statue a rendu les oracles les plus extraordinaires. Je ne suis pas superstitieux, mais je dois avouer qu'elle m'a souvent assisté de ses bons conseils dans ma magistrature. Joignez à cela que ces prêtres ont beaucoup de piété. Ni trop gais, ni trop fiers, comme les prêtres de Jupiter et de la Fortune, ils marchent nu-pieds, ne se nourrissent point de viande et passent la plus grande partie de la nuit en dévotion solitaire. Bon exemple pour nos autres prêtres, en effet. Le temple de Jupiter réclame de grandes réformes, dit Lépidus, qui demandait à réformer tout le monde, excepté lui. On dit qu'Arbacès, l'Égyptien, a révélé d'importants mystères au prêtre d'Isis, observa Salluste. Il se vante de descendre de la race de Ramsès et proclame que sa famille est en possession de secrets qui remontent à la plus haute antiquité. Il a certainement le don du mauvais œil, dit Clodius. Quand il m'arrive de rencontrer cette face de Méduse avant d'avoir fait le signe préservateur, je suis sûr de perdre un cheval favori ou de faire tourner le chien 9 fois de suite. Ce serait là vraiment un miracle, dit Salluste avec gravité. Qu'entendez-vous par là? Reprit le joueur dont la figure se colora vivement. J'entends que vous ne me laisseriez pas grand-chose si je jouais souvent avec vous. Clodius ne lui répondit que par un sourire de dédain. « Si Arbacès n'était pas si riche, poursuivit Pansa d'un air important, je ferais agir un peu mon autorité, je dirigerais les informations à l'effet de savoir s'il y a quelque réalité dans le bruit qu'il fait passer pour un astrologue et magicien. Agrippa, pendant son édilité à Rome, a banni tous les citoyens dangereux, mais un homme riche, c'est le devoir d'un édile de protéger les riches. » Mais que pensez-vous de cette nouvelle secte qui, à ce que l'on m'a dit, a recruté quelques prosélytes à Pompéi, celle des adorateurs du dieu hébreu Christ? Ô pur visionnaire, spéculatif, dit Clodius, pas un seul patricien parmi eux. Leurs prosélytes sont pauvres, insignifiants, ignorants. Et qu'on ne devrait pas moins crucifier pour leur blasphème, s'écria Pansa avec véhémence. Ils osent renier Vénus et Jupiter. Oh, qu'ils me tombent sous la main, je ne dis que cela. Le second service avait pris fin. Les convives s'étaient rejetés en arrière sur les lits. Il y eut une pause pendant laquelle ils prêtèrent l'oreille aux 12 voix du midi et à la musique du roseau arcadien. Glaucus était le plus enivré et le moins disposé à rompre le silence. Mais Clodius commença à penser qu'on perdait beaucoup de temps. « Bene vobis, à votre santé, cher Glaucus, dit-il en vidant une coupe pour chaque lettre du nom de son ami avec toute l'aisance d'un buveur émérite. Ne voulez-vous pas prendre votre revanche d'hier ? Voyez, les dés vous invitent à jouer. » Comme vous voudrez, dit Glaucus. Les dés en été devant un édile, reprit Pansa d'un air magistral, c'est contraire à la loi. Pas en votre présence, grave Pansa, répliqua Clodius en remuant les dés dans un long cornet. Votre aspect empêche toute licence. Ce n'est pas la chose en elle-même, l'excès de la chose qui est condamnable. « Quelle sagesse !» murmura l'ombre. Alors, je regarderai d'un autre côté, dit Pansa. Pas encore, bon Pansa, attendons, dit Glaucus, la fin du souper. Claudius ne céda qu'à regret. Un bâillement cacha son déplaisir. Sa bouche s'ouvre pour dévorer de l'or, murmura Lepidus à Sallust, en en prenant cette citation à l'Olularia de Plaute. Ah, que je connais bien ces polypes qui gardent tout ce qu'ils touchent, dit Sallust sur le même ton, et en empruntant à son tour une citation à la même comédie. Le troisième service, consistant dans une infinité de fruits, de pistaches, de confitures, de tartes et de plats d'apparat qui revêtaient mille formes singulières et aériennes, fut alors placé sur la table, et les ministres, les serviteurs, y mirent aussi le vin, qui jusque-là avait été offert à la ronde aux hôtes, dans de larges jarres de verre, lesquelles portaient toutes sur leurs étiquettes son âge et sa qualité. Goûtez de ce vin de Lesbos, pensa, dit Sallust, il est excellent. Ce n'est pas qu'il soit très vieux, dit Glaucus, mais le feu l'a avancé en âge. Nous aussi ne vieillissons pas avant le temps grâce au feu. Ce sont les flammes de Vulcain pour lui, et pour nous ce sont les flammes de Vénus, en l'honneur de laquelle je vide cette coupe. Il est délicat, dit Pansa, mais dans son parfum, on sent encore un peu de résine. La magnifique coupe! S'écria Claudius en montrant une coupe de cristal transparent dont les anses étaient garnies de pierres précieuses entrelacées en forme de serpent. C'était le goût favori alors à Pompéi. Cet anneau, dit Glaucus en tirant un joyau de grand prix de la première phalange de son doigt et en le suspendant à l'anse de la coupe, lui donnera une plus riche apparence et la rendra moins indigne d'être acceptée par mon ami Claudius, à qui veuillent les dieux accorder la santé et la fortune, afin qu'il la remplisse souvent et longtemps jusqu'au bord. Vous êtes trop généreux, Glaucus, dit le joueur en tendant la coupe à son esclave. Mais votre amitié surtout double la valeur du présent. Je bois aux grâces, dit Pansa, et il remplit trois fois sa coupe. Les convives suivirent son exemple. Ben, nous n'avons pas nommé le directeur au festin, cria Sallust. Jetons les dés pour le désigner, dit Claudius en agitant le cornet. Non, 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 dit Glaucus. Point de froid directeur entre nous. Point de dictateur du banquet. Point de res convivii. Les Romains n'ont-ils pas juré de ne jamais obéir à un roi? Vous montrerez-vous moins libre que vos ancêtres? Allons, musiciens, faites-nous entendre le chant que j'ai composé l'autre nuit. C'était des vers sur ce sujet, l'hymne bacchique des heures. Les musiciens accordèrent leurs instruments sur le mode ionien, pendant que les plus jeunes d'entre eux chantaient en grec les vers suivants. Hymne du soir pour les heures. Nous avons couru pendant un long jour, nous les rapides heures, avant que la nuit nous pousse à son tour vers ses sombres demeures. Saluez-nous en ce séjour d'un chant de joie et d'amour. Ainsi la princesse de Crète, lorsque s'enfuit son séducteur, d'un lierre environnant sa tête, eut Bacchus pour consolateur. Leurs paupières demi-fermées se détournaient des cieux étincelants. Sous le souffle léger des brises parfumées, les vagues à leurs pieds roulaient les flots plus lents. Ariane, un lynx auprès d'elle, souriait à Bacchus, le front tout rougissant. Le dieu qui la trouvait plus belle l'entourait d'un bras caressant. Le faune indiscret et peu sage, le faune entr'ouvrait le feuillage pour voir ce tableau ravissant. Pauvres heures déjà lassées, nous qui devons voler toujours pendant la nuit encore pressée, pénible sera votre cours. Humectez notre aile légère dans votre coupe où la lumière unit sa pourpre à la pourpre du vin. Quand le soleil quitte la terre, on le retrouve en ce nectar divin. Au fond d'une coupe remplie, le soleil aime à s'endormir. Pareil au fils de Thessalie, se mirant dans la source et s'y laissant mourir. Buvez à Jupiter, à l'amour, à Mercure, aux grâces pleines de douceur qu'enferme la même ceinture, à la belle Aglaé qui conduit ses deux sœurs. Ne nous oubliez pas, ô mortels, dans vos fêtes, nous qui veillons sur vous en cœur du haut des cieux. Ne comptez pas les dons que vous nous faites, celui qui boit le plus nous honore le mieux. Saisissez, saisissez les heures au passage, plongez-les dans le vin, elles reparaîtront avec un plus joyeux visage, comme vous la guirlande et la rosée au front. Nous avons soif, que Bacchus nous apaise, comme Hylas fut jadis des nymphes emportées. Nous voulons entraîner le seul lieu qui nous plaise dans la nuit avec nous, en chantant sa beauté. Les convives applaudirent avec enthousiasme. Quand le poète est l'amphitryon, ses vers obtiennent toujours un grand succès. C'est du grec pur, dit Lépidus. La hardiesse, la force et l'énergie de cette langue ne sauraient être imitées par la poésie latine. Impossible de contester, dit Claudius, avec une intention ironique au fond, mais cachée en apparence, que ces vers ne contrastent singulièrement avec la simplicité de l'ode d'Horace que nous avons entendu d'abord. Simplicité passée de mode. La mélodie est du goût ionien le plus pur. Ce mot me rappelle une santé que je veux porter. Compagnon, je bois la belle Ionne. Ionée, le nom est grec, dit Glaucus d'une voix douce. J'accepte cette santé avec plaisir. Mais quelle est cette Ionée? Vous ne faites que d'arriver à Pompéi, sans quoi vous mériteriez l'ostracisme pour votre ignorance, dit Lépidus avec importance. Ne pas connaître Ionée, mais c'est ignorer les plus charmants attraits de notre cité. Elle est de la plus rare beauté, ajouta Pansin, et quelle voix! Elle ne doit se nourrir que de langue de rossignol, dit Claudius. Langue de rossignol, parfait, parfait, s'écria l'ombre. Oh, renseignez-moi davantage, je vous prie, dit Claudius. Sachez donc, commença Lépidus. Non, laissez-moi parler, poursuivit Claudius. Vos paroles se traînent comme des tortues. Oh, les vôtres nous assomment comme des pierres, murmura tout bas le jeune efféminé en se laissant retomber dédaigneusement sur son lit. Sachez donc, mon cher Glaucus, qu'Ionne est une étrangère arrivée depuis peu à Pompéi. Elle chante comme Sappho et ses chants sont de sa composition. Quant à la flûte, la cithare, la lyre, je ne sais vraiment sur lequel de ces instruments elle ne surpasse pas les muses. Sa beauté est éblouissante, sa maison est parfaite. Quel goût, quel brillant, quel bronze! Elle est riche et aussi généreuse qu'elle est riche. Ses amants, sans doute, dit Glaucus, ne la laissent pas mourir de faim. L'argent gagné sans peine est légèrement dépensé. Ses amants, ah, mais c'est là l'énigme. Ionne n'a qu'un défaut. Elle est chaste. Tout Pompéi est à ses pieds et elle n'a pas d'amant. Elle ne veut même pas se marier. Pas d'amant, répéta Glaucus. Non, elle a l'âme de Vesta avec la ceinture de Vénus. Quelle délicatesse d'expression, dit l'ombre. C'est un prodige, s'écria Glaucus. Ne peut-on la voir? Je vous mènerai chez elle ce soir, reprit Clodius. En attendant, ajouta-t-il, et il fit de nouveau retentir les dés. À votre gré, répondit le complaisant Glaucus. Pense ça. Retournez-vous. Lépidus et Salluste jouèrent à paire ou non, et le sixième convive, le parasite, regarda le jeu de Glaucus et de Clodius, qui se laissèrent bientôt absorber par les chances des dés. Par Pollux, s'écria Glaucus, voilà la seconde fois que je tombe sur les caniculés, le plus faible coup. À présent, que Vénus me protège, dit Clodius, qui tint quelque temps le cornet suspendu et l'agita. Ô bonne Vénus! C'est Vénus elle-même, ajouta-t-il, en amenant le plus haut point qu'on appelait ainsi, d'après la déesse, que le joueur heureux trouve d'ordinaire assez favorable. « Vénus est une ingrate, dit Clogus, car j'ai toujours sacrifié sur son autel. »« Ben, celui qui joue avec Clodius, murmura Lépidus, pourra bien, comme le curculio de Plaute, mettre au jeu son manteau. »« Pauvre Glaucus, il est aveugle comme la fortune elle-même, continua Salluste du même ton. » « Ah non, je ne veux plus jouer, dit Glaucus, j'ai perdu 37 sesterces. »« J'en suis désolé, répliqua Clodius. »« Homme aimable, dit l'ombre. »« Après tout, s'écria Glaucus, le plaisir que je prends à votre gain compense la peine de ma perte. » La conversation devint alors générale et animée. Le vin circula plus librement. Et Ionné fut de nouveau l'objet des éloges des convives de Glaucus. Au lieu de veiller jusqu'à ce que les étoiles s'effacent, allons contempler celle dont l'éclat fait pâlir leur clarté, dit Lépidus. Clodius, qui ne voyait aucune chance de recommencer les parties de dés, appuya la proposition. Et Glaucus, quoiqu'il pressât honnêtement ses hôtes de ne pas se lever de table encore, ne put s'empêcher de leur laisser voir que sa curiosité avait été éveillée par les éloges qu'ils avaient faits d'Ionné. Ils décidèrent donc qu'ils iraient de ce pas, à l'exception de Pansa et du parasite, à la maison de la belle grecque. Ils burent à la santé de Glaucus et de Titus, ils accomplirent leur dernière libation, reprirent leurs pantoufles, descendirent les escaliers, traversèrent l'atrium brillamment éclairé et passèrent sans craindre de morsure devant le terrible dogue dont la peinture défendait le seuil. Ils se trouvèrent alors au moment où la lune se levait dans les rues de Pompéi, joyeuse et encore remplie par la foule. Ils parcoururent le quartier des orfèvres, tout étincelant de lumière que réfléchissaient les pierres précieuses étalées dans les boutiques, et arrivèrent enfin à la porte d'Ionné. Le vestibule était illuminé par des rangées de lampes. Des rideaux de pourpre brodés ouvraient l'entrée du tablinum, dont les murs et le pavé en mosaïque brillaient des plus vives couleurs que l'art avait pu y répandre, et sous le portique, qui entourait un odorant jardin, ils trouvèrent Ionné, déjà environné de visiteurs, l'adorant et l'applaudissant. « Ne m'avez-vous pas dit qu'elle était athénienne ?» demanda Glaucus à voix basse en mettant les pieds dans le péristyle. « Non, non, elle est de Néapolis. »« De Néapolis !» répéta Glaucus. Et au même moment, le groupe qui entourait Ionné s'entr'ouvrit et présenta à sa vue cette brillante apparition, cette beauté pareille aux nymphes qui, depuis quelques mois, avait surnagé sur l'abîme de sa mémoire.